des pigeons.
Et en télé ce soir sur la Une à 18h30, on vous parle des ondes électromagnétiques, des ondes GSM en danger. La prudence est en tout cas de mise. Extrait tiens de ce que vous pourrez peut-être entendre en télé avec le docteur Jacques Van der Straten, spécialiste des ondes.
Je ne vois pas très bien en quoi le Wi-Fi pourrait être, disons, à risque dans la mesure où déjà, pour le GSM, on est en questionnement. Or, le Wi-Fi, c'est au moins 1000 fois moins.
Les ondes Wi-Fi 1000 fois moins dangereuses que les ondes GSM. On va vérifier ça avec Benoît Loupe, avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en pollution électromagnétique. Alors, il y a le mot pollution. C'est vraiment une pollution?
Oui, c'est réellement une pollution. Il faut savoir que ça vient au départ d'un mot anglo-saxon qui dit électrosmog, qui en fait est la contraction donc du mot électromagnétique, électrique, et smog, brouillard, donc brouillard d'ondes électromagnétiques. Et ceci depuis à peu près une trentaine d'années. Et ce sont les pays les plus industrialisés qui se sont intéressés à la question, au départ aux États-Unis et en Suède, et puis progressivement en Europe. Et donc, oui, on est effectivement soumis à des fréquences de nature différente. Il y a deux familles, les basses fréquences, on va dire que c'est tout ce qui concerne l'électricité, et les hautes fréquences, tout ce qui concerne les technologies sans fil et les antennes.
On a des idées reçues comme quoi certains produits seraient plus inoffensifs ou plus dangereux que d'autres. Là, quand on entend que le Wi-Fi est moins dangereux que le GSM, moi je suis un peu étonné.
Oui, en fait, en termes de puissance, il est clair qu'un GSM va rayonner probablement plus que, en tous les cas, dans la tête de l'utilisateur, étant donné qu'il colle l'antenne. Enfin, le GSM constitue l'antenne, finalement, de l'appareil. C'est un tout, c'est un système électronique un peu complexe, mais tout le GSM fait antenne, et cette énergie va pénétrer, effectivement, au niveau de l'oreille interne. On parle des problèmes de neurinome acoustique qui ont été démontrés, donc de cancer du cerveau, autour de la zone où on utilise le GSM. Et les ondes Wi-Fi, on peut penser qu'en tous les cas, une distance de moins de 5 mètres à côté du routeur, en tous les cas, moi, les mesures que j'effectue sur le terrain depuis 17 ans maintenant, eh bien, je sais que ce n'est pas inoffensif à quelques mètres de distance. Maintenant, il est bien évident que si vous êtes à 50 mètres d'une borne Wi-Fi, l'énergie que vous recevez est beaucoup plus faible.
Alors, dans la maison, d'autres appareils dont il faut se méfier ?
Oh ben je dirais principalement des choses tout à fait courantes, c'est le cas de le dire, l'électricité pour les basses fréquences, dormir avec un câble électrique à la tête de lit qui peut rayonner au travers d'une cloison. Certains matériaux d'ailleurs diffusent plus.
Mais tout le monde a un câble électrique, ne fût-ce que pour le radio-réveil.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est un appareil tout à fait classique qui contient un petit transformateur qui donne du champ magnétique par le transfo, qui lui est très pénétrant, contrairement au champ électrique qui lui reste plus en surface de la peau et en qui n'est pas conduit de la même manière dans le corps. Le champ magnétique traverse davantage, mais le réveil donne aussi du champ électrique parce qu'il est sous tension. Même un appareil éteint, une lampe de chevet, reste sous tension la nuit.
Disons, vous faites peur, hein ?
Ben non, c'est un phénomène physique. C'est pas faire peur, en fait, que de dire la vérité de la physique des phénomènes. Alors, si ça fait peur, c'est possible, mais c'est vraiment pas le but.
Non, moi, parce qu'on est entouré d'objets. Le micro-ondes, vous en pensez quoi du micro-ondes ?
Alors, le micro-ondes, c'est un appareil qui éteint est sous tension, mais est mis à la terre, sa carcasse étant mise à la terre, les charges électriques sont drainées vers le sol, vers la terre, donc là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Par contre, une fois qu'il fonctionne, il y a tout un système, le magnétron, qui va rayonner des hyperfréquences de 2,45 gigahertz, c'est une fréquence qui provoque des chocs moléculaires au niveau des molécules d'eau, et ça provoque cet échauffement, mais il y a aussi des fuites, ça veut dire que les fours aujourd'hui, qui sont mis sur le marché, avec des fuites légalisées, autorisées. C'est une aberration totale, mais ces fuites autorisées le sont parce qu'elles ne provoquent pas de brûlure, mais elles provoquent des effets sur le système nerveux, elles peuvent en provoquer sur l'œil les effets cataractogènes et ce genre de choses, mais ça répond aux normes électrotechniques industrielles. Le côté biocompatible des appareils que nous utilisons n'est absolument pas pris en considération.
Autre exemple, je ne sais pas moi, un téléphone sans fil, c'est la mode, on a tous des téléphones sans fil à la maison.
Ah ben moi je crains beaucoup plus le téléphone sans fil.
Ah oui, carrément.
Quand je réalise des mesures in situ dans les habitations.
Plus dangereux que le GSM ?
Non, que les antennes de téléphonie mobile. Par contre, ils rayonnent autant qu'un GSM dans la tête de l'utilisateur.
D'accord.
Donc il ne faut pas sous-estimer ce petit gadget pratique. Je ne vais pas remettre en question le côté confortable et pratique des technologies. Je ne suis pas contre la modernité, même au contraire. Mais il faut maîtriser en tous les cas son temps d'exposition. Bon, je pense que si on passe sa vie au téléphone sans fil, ce n'est pas l'idéal. Mieux vaut alors limiter les communications avec un GSM et un kit main libre et éventuellement revenir au téléphone fixe pour des conversations longues.
Benoît Loup, restez avec nous parce qu'on a posé la question aux gens évidemment sur Facebook. Et Joël, on va rappeler cette question.
Craignez-vous les ondes Wi-Fi, GSM? Est-ce que vous avez peut-être des petits trucs pour vous en protéger? Et si vous avez encore des questions précises à poser à notre expert, il reste avec nous par téléphone. Vous nous posez ces questions au 30 63 50 centimes le message ou via notre page Facebook. On vous rappelle le titre de notre page, c'est « On n'est pas des pigeons ». Allez-y, répondez.
On n'est pas des pigeons, de 11h à midi, sur Vivacité.
Et on parle d'ondes électromagnétiques avec notre expert Benoît Loup, expert en pollution électromagnétique, et vos questions sur Facebook, Joël.
On vous demandait il y a quelques instants si vous étiez inquiet de ces ondes GSM ou Wi-Fi. Beaucoup de réactions, je vais sélectionner tout d'abord celle de Guillaume qui dit « Dans la configuration du modem, on peut choisir la fréquence du Wi-Fi. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre ?»
C'est une question que vous me posez là.
Oui.
Alors, en fait, non, il n'y en a pas une qui soit meilleure que d'autres. Effectivement, il y a plusieurs canaux, plusieurs fréquences. On va dire qu'en gros, il y a 10 canaux de fréquence entre 2.43 et 2.85 gigahertz. Mais bon, ça ne change rien. L'exposition aux micro-ondes pulsées, aux hyperfréquences pulsées, c'est une catégorie, c'est comme ça qu'on l'appelle, est la même. Ce qu'il faut pour moi, l'idéal, c'est de carrément le désactiver, l'inhiber via l'adresse IP du modem, c'est-à-dire ce qui permet avec le navigateur d'aller dans le logiciel du modem et par la même occasion reconnecter des câbles réseau et se connecter physiquement à un câble. D'abord, le signal est meilleur et puis vous n'avez plus du tout de nuisance.
Oui. Une autre question qui nous arrive par SMS, c'est Antonella qui nous la pose. Elle dit « J'entends parler de pierre de sel pour diminuer les ondes. Est-ce que ça marche ?»
Non, c'est une véritable escroquerie. Il faut être clair, il ne faut pas y aller par quatre chemins. Les pierres de sel n'émettent pas non plus des ions négatifs qui purifient l'air. C'est absolument faux. Par contre, elles produisent des pollutions électriques à cause du câble. Et mettre ce câble à proximité d'une tête de lit d'enfant est absolument irresponsable. Ça va rester sous tension, voire allumé toute la nuit, ce qui inhibe en plus la glande pinéale qui a besoin pour les rythmes biologiques, les rythmes nyctéméraux alternant jour et nuit d'être dans l'obscurité. Donc c'est pas bien du tout. Et puis je pense que vraiment, il existe de toute façon des cordelières blindées qu'on peut acquérir des produits spécialisés, des magasins spécialisés, et on peut remplacer celui de sa lampe de sel. Alors ça reste beau, ça reste décoratif, ça reste apaisant, mais c'est tout.
Oui. Jean-Christophe, autour de la table, une question pour vous.
Oui, parce qu'on passe aussi un petit peu en télévision. Est-ce que les téléviseurs modernes à écran plat émettent aussi ce type d'ondes? On imagine que c'est quand même moins dangereux que les anciens tubes cathodiques.
Tout à fait. Il n'y a plus donc ce balayage d'électrons vertical et horizontal qui était produit aussi et mis sous tension par la boîte THT, la boîte très haute tension, à peu près 15 000 volts. Bon, vous imaginez, avec un gros transfo, plein de bobines à l'arrière. D'ailleurs, l'écran cathodique rayonnait plus à l'arrière qu'à l'avant, ce qui fait que parfois le personnel même des premiers écrans d'ordinateur qu'on avait comme ça il y a 20-30 ans ramassait finalement le champ magnétique du voisin qui était en face au niveau d'un poste de travail. Et il en avait moins lui-même en étant devant. Mais c'est pour ça qu'on a commencé, certaines firmes fabricants d'ordinateurs ont commencé à mettre les employés en quinconce pour éviter ce phénomène. Et alors effectivement, les écrans plats rayonnent beaucoup moins. Il faut en tous les cas essayer de toujours choisir un système d'alimentation avec une prise de terre. Donc éviter des systèmes d'alimentation à deux pôles, ces prises plates avec ces tout petits fils qui relient le transfo, préféré avec un système donc de prise en forme de demi-boule avec la terre, donc la prise femelle qui peut se brancher dans une prise de courant avec une terre, cette petite tige métallique qui sort, va absorber ce champ électrique. La seule chose qu'il faut dire, c'est qu'avec les écrans plats, le gros problème, c'est plutôt la lumière qui, elle, est artificielle et émet beaucoup trop dans le spectre bleu, ce qui n'est pas génial pour l'œil, mais ça c'est un autre problème.
Autre question sur Facebook.
Valérie nous pose une question qui va intéresser tous les parents. Qu'en est-il des babyphones? L'ONE nous demande de les mettre le moins possible près des enfants.
Oui, c'est une très bonne décision de la part de l'ONE que je salue parce que effectivement, les babyphones actuels émettent dans la bande des hyperfréquences comme les GSM autour de 800 à 900 MHz, entre 800 et 900, et par micro-ondes exactement comme un téléphone sans fil DECT, ce téléphone qu'on balade à l'intérieur des maisons, et en permanence, ça veut dire que l'enfant va être soumis à des rayonnements à la fois de basse fréquence par le câble d'alimentation et le transfo qu'il a à côté de lui, et puis en plus à des hautes fréquences. Donc le mieux est d'essayer de retrouver, mais c'est pas facile, des babyphones de type analogique, c'est-à-dire ceux dont on voit l'antenne, et il doit être marqué dans la notice ou sur la boîte qu'il est effectivement analogique. Et dans ce cas-là, on n'a pas ce problème d'hyperfréquences pulsées qui sont beaucoup plus problématiques au niveau des effets sur la santé.
Dernière question autour de la table, Xavier.
Moi, j'ai toujours entendu dire qu'on n'avait aucune étude scientifique qui permettait de démontrer que tout cela était réellement dangereux. Alors, est-ce qu'on est face à deux lobbies, le lobby des industriels d'un côté et le lobby des consommateurs qui s'ultra-protègent de l'autre ?
C'est pas faux. En fait, vous répondez à la question en la posant en même temps, c'est bien. En fait, il faut savoir que la grosse machine qu'est l'OMS a bougé en 2002 pour les basses fréquences, l'électricité, en disant il y a des effets d'augmentation sur la leucémie chez l'enfant. Et en mai 2011, cette grosse machine qui ne bougeait pas depuis à peu près une trentaine d'années a décidé de dire qu'on pouvait classer les champs électromagnétiques dans les effets potentiellement cancérigènes pour l'homme, catégorie 2B, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que face aux nouvelles preuves scientifiques des dernières années, on va dire des 10 dernières années, l'OMS lui-même, elle-même, ne peut plus dire qu'il ne se passe rien, qu'on doit absolument, face à ces nouvelles études, à cette abondance de connaissances scientifiques maintenant, et beaucoup plus indépendantes qu'avant aussi, donc non financées par les lobbies, je pense par des pouvoirs publics ou des ONG, il faut appliquer le principe de précaution. On ne peut pas, en toute impunité, s'exposer ou irradier finalement, bon le mot est fort, ça fait penser à la radioactivité, mais finalement pourquoi pas dans les rayonnements classés aussi de non-ionisants, il y a bien une irradiation dans le spectre des rayonnements invisibles, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est sournois.
Benoît Loupe, on pourrait parler avec vous pendant des heures, mais on va devoir s'arrêter là. Je rappelle que vous êtes expert en pollution électromagnétique et que vous serez ce soir sur le plateau télé d'On n'est pas des pigeons, puisqu'on va en reparler ce soir, bien sûr, à partir de 18h30 sur la Une. Autant dire qu'on attend encore et toujours vos questions via Facebook pour y répondre ce soir en télé donc. Jeanne, enfin je vais...